Et bonjour, Barbara Varin, ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique dédiée à l'actualité associative et à l'ESS, en direct s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'engagement, de droit, mais aussi de pouvoir d'agir. Car derrière certaines démarches administratives et juridiques, il y a souvent des parcours de vie, des obstacles à franchir et parfois un vrai besoin d'accompagnement. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Véronique Martinez, juriste de formation et fondatrice de deux initiatives engagées, Euphémisme, Oui tu peux, une plateforme qui accompagne les personnes dans leurs démarches et leurs projets, et Andijuris, une structure qui met le droit au service de l'inclusion et de l'accessibilité. Donc deux projets qui s'inscrivent pleinement dans les valeurs de l'ESS, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore cet acronyme, et qui témoignent d'une conviction forte, chacun doit pouvoir accéder à ses droits et croire en ses possibilités. Donc merci Véronique Martinez d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie de m'inviter. Ça fait plaisir.
Alors c'est réciproque. Mais avant, un petit focus sur, bien sûr, sur l'accorderie, je dirais comme d'habitude, que l'on ne présente plus, n'est-ce pas ? Et hébergé tout comme FM+, au sein du carrousel La Maison par tous. Alors, petit rappel de principe de ce qu'est l'accorderie. La monnaie d'échange est le temps. Chaque membre peut proposer ses compétences, bricolage, administrative, conversation en langue étrangère, jardinage, informatique, conversation philosophique, que sais-je encore, et recevoir en échange le temps d'un autre membre. Une heure donnée équivaut à une heure reçue, et ceci sur un plan strictement, on est vraiment à l'horizontale, quel que soit son statut social, quel que soit le service que l'on propose, il n'y a pas une prestation qui est supérieure à une autre. C'est vraiment le temps qui est la monnaie d'échange. Donc ce système favorise l'entraide, la solidarité, le lien social, tout en valorisant les talents et savoir-faire de chacun, quel que soit donc l'âge, la situation ou le parcours. Si vous souhaitez en savoir plus, rejoindre le réseau ou simplement découvrir le concept, il suffit de contacter l'accorderie de Montpellier via le site internet ou les réseaux sociaux, ou bien encore de participer à l'une de nos réunions d'accueil destinées aux nouveaux membres. Vous pouvez ainsi venir le vendredi après-midi, lors du Blablaté, pour vous immerger dans l'ambiance accorderie, qui est donc hébergée au Carrousel, situé au 9 cours Gambetta. Une belle manière de remettre la coopération et l'humain au cœur des échanges. À l'instar, je dirais, des dispositifs développés par Véronique Martinez. Donc Véronique Martinez, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs, s'il vous plaît ?
Je dirais que je suis une personne éclectique. Hein. J'ai aussi bien travaillé dans le service public que privé et maintenant dans le secteur indépendant. Et j'ai décidé au bout de ces 30 années d'expérience professionnelle, puisque j'ai commencé à 16 ans et demi à travailler, donc ça vous donne un petit peu mon âge, de mettre mes compétences au service des personnes en situation de handicap, aidants familiaux et seniors, qui sont dans la difficulté pour retrouver leurs droits, mais aussi leur autonomie, qui n'est pas toujours attendue, on va dire, dans leur vie en général. Voilà, donc en quelques mots, c'est très difficile.
Oui, oui.
Maintenant...
On va développer, hein, voilà. Bien sûr.
Un profil éclectique et toujours engagé.
Oui, ça se ressent.
L'idée de la justice, hein, surtout la justice pour tous. Mm-hmm. Voilà, et que tout le monde puisse actionner aussi leurs droits. Oui. Sauf que des fois, ils ont la méconnaissance de ces droits et qui sont pourtant là, mais qui ne sont pas mis en lumière.
Et oui. Alors, oui,
c'est ça que je prône.
Oui, et oui, oui, tout. Alors justement, Véronique, on va revenir bien sûr sur votre parcours qui est, comme vous le disiez, éclectique, riche, dense. Vous êtes, entre autres, je dirais, juriste de formation. Oui. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le droit à l'origine, s'il vous plaît ?
D'abord, me défendre moi-même. Je commençais, comme vous savez, jeune à travailler, donc droit du travail, etc. On ne connaît pas trop, on n'a pas trop les ficelles. Il n'y a pas, à l'époque, des années 80, il n'y avait pas un mode d'emploi. Donc, en fait, j'ai découvert le droit à travers mes études. Donc, j'ai commencé par un BEP au lycée du Mas de Tesse, en commerce. Hein, et là, il y avait du droit et de l'économie, ça m'a beaucoup plu. Puis, dans les années 90, j'ai intégré un cabinet d'avocats en particulier, donc je ne citerai pas l'avocate, puisque voilà, ça ne serait pas très... Voilà, je ne veux pas citer, mais peut-être qu'elle se reconnaîtra. Voilà, qui m'a mis à le pied à l'étrier.
Mais de bons souvenirs. De, bons
de
souvenirs.
Très, très bons souvenirs. Donc, c'est là que j'ai découvert vraiment qu'est-ce que c'était procédure civile, l'organisation judiciaire, et qui m'a dit de passer certains diplômes, donc devenir clerc d'avocat. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il faut 5 ans pour devenir clerc d'avocat. Donc, j'ai fait une spécialisation forcément droit du travail, que j'ai obtenu début des années 2000. Et puis après, j'ai fait 2 licences par correspondance plus 2 masters en droit au CAVEJ, qui est, la formation par correspondance de la Sorbonne à Paris, qui s'appelle le CAVEJ. Et en fait, c'est là que j'ai obtenu. Donc, c'est des études très longues, dures, parce que c'est Paris, et Paris n'aime pas forcément des fois les gens du Sud.
D'accord, vous avez déjà vécu une forme d'exclusion, vous diriez.
Oui.
Bon, amis parisiens, vous n'êtes pas tous comme ça.
Oui, je me souviens le jour d'un oral, je suis arrivée avec des grisettes de Montpellier pour acheter le prof qui me faisait passer le droit des obligations.
C'était sympathique, oui. Attention délicate.
Voilà, et qui m'a dit, combien il vous faut, quelle note il vous faut. Donc j'ai donné la note, mais j'ai eu la note, grâce aux grisettes de Montpellier.
Ah, d'accord, comme quoi, voilà. Hein, bon.
Mais j'ai eu mon année, c'est pas tout le temps comme ça, j'ai eu mon année quand même. Je suis redescendue, après sur Montpellier, j'ai fait une maîtrise après en ressources humaines, pour compléter l'aspect droit du travail. Et puis en 2011, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire après toute expérience que tu as eue, aussi bien le public que le privé, etc. J'ai décidé de monter, 2011, j'ai monté mon auto-entreprise comme beaucoup. À ce moment-là. Et puis après, j'ai lancé Handijuris, qui est un centre de formation pour personnes en situation de handicap à l'inclusion dans les ressources humaines. Et puis, il y a 2 ans, il a émergé un autre projet qui était Oui, tu peux. C'est les épreuves de la vie qui ont fait que mes parents ne savaient pas écrire certaines lettres. Comment s'adresser au service public, comment s'adresser juste pour avoir la retraite, etc.
D'accord.
Et c'est parti de là. Et j'ai demandé aux gens qui étaient autour de moi s'il existait une plateforme ou en tout cas un outil qui vous permettrait d'avoir des lettres toutes faites en main pour vous, depuis chez vous. En 2 minutes, vous avez ce qu'il vous faut sans vous prendre, on va dire entre guillemets, la tête. J'aime pas ce euphémisme, mais c'est vrai que personne n'est soit en fauteuil roulant. C'est difficile, la pratique d'accéder aux services publics. Des fois, certains établissements n'ont pas forcément les accès. Et donc, c'est comme ça qu'est émergé. Et cette année, c'est lancé.
Très bien. Alors, je reprends par rapport à votre parcours, même si vous l'avez peut-être un peu évoqué. Est-ce qu'il y a eu un moment charnière, une prise de conscience qui vous a amené à orienter votre expertise vers des questions d'accessibilité? Alors, vous parliez bien sûr de vos parents, mais peut-être plus spécifiquement, si je puis me permettre, de handicap. Pourquoi cette question du handicap est-elle aussi centrale, même si, sans dévoiler quoi que ce soit et tout en respectant la confidentialité de chacun?
Ce qui m'a permis cet aspect handicap, c'est que c'est pas moi qui vais vers les gens, c'est eux qui viennent vers moi. Donc en fait, j'étais à l'époque secrétaire de direction en 2001, j'étais secrétaire de direction dans un centre hospitalier privé. On était en train de rééduquer en tout cas des personnes qui étaient tétra et paraplégiques. Donc c'est à ce moment-là que j'ai connu un célèbre professeur qui m'a orientée vers des études sur l'handicap, donc du droit secteur social, sanitaire et social. Et en fait, c'est là que j'ai appris par les patients qu'est-ce qu'était qu'un handicap, qui pouvait être visible et invisible, qu'est-ce qu'était qu'une tétraplégie, une paraplégie, et quels étaient les méandres dans leur vie, quels étaient leurs freins, en fait, et les défis qu'ils devaient mener pour justement être considérés un peu comme tout le monde. Quand on a un handicap, maintenant, on n'est pas considéré comme tout le monde, mais sachez que ça peut arriver à n'importe qui.
Bien sûr, tout à fait.
Voilà, donc c'est là que ça a été le starter.
Oui.
Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Et j'ai dit, mais peut-être qu'il faut des diplômes. Donc, j'ai commencé mes diplômes en droit dont j'avais besoin. Et puis après, j'ai fait une formation qu'on appelle mandataire judiciaire à protection des majeurs. Donc, c'est un nouveau terme de tuteur et curateur. que j'ai obtenue en 2017. Et puis, à partir de là, je me sentais légitime aussi bien dans le droit que dans l'handicap pour lancer. Donc, ça a été vraiment ça. Et puis après, des gens autour de moi qui sont devenus handicapés par des accidents de la vie, accidents de la route souvent, qui m'ont dit, Véronique, comment on doit faire ? Et je me suis dit, écoute, je vais t'aider. Et je les ai aidés bénévolement à rédiger le dossier de la MDPH, etc.
Oui, pour obtenir l'AH, comme on disait à l'époque, en tout cas. C'est peut-être toujours d'actualité.
AH, toujours.
Les acronymes changent parfois.
Allocation adulte handicapé, c'est sûr. C'est vrai qu'on est beaucoup rempli dans cette société d'acronymes.
Oui, certes, qui évolue en plus.
Et puis, des fois, un acronyme peut être repris par notre organisme qui ne veut pas dire la même chose. Effectivement, on peut se sembler perdu. Voilà, vraiment, ça a été... cet axe-là qui m'a donné envie d'aider ceux qui en avaient le plus besoin.
Oui.
Donc, voilà. Donc, être, on appelle ça maintenant milieu ordinaire, hein, quand on est milieu ordinaire, j'ai voulu les aider.
Oui.
Voilà.
Parce qu'en effet, Véronique, on perçoit souvent le droit comme un domaine technique ou très, très complexe. Vous le présentez comme un outil d'émancipation.
C'est ça.
Parce que vous avez aussi acquis cette expertise et vous y avez. Je trouve que votre trajectoire est vraiment étonnante du BEP, qui est déjà un diplôme, un beau diplôme, mais je veux dire, vous avez ensuite fait des études supérieures.
C'est ça.
Je dirais. Impressionnant. Donc,
un cours du soir.
Et oui, bien sûr. Ben c'est d'autant plus, si je puis dire, louable. Et donc, bravo. Comme quoi, on peut se former tout au long de la vie. Et je veux dire, on n'est pas, entre guillemets, stigmatisé par un parcours d'études initiales, surtout pas moi qui vais vous le dire. Hein. Je trouve que c'est toujours intéressant d'évoluer, de se former tout au long de la vie. Mais vous avez atteint des sommets, même au niveau académique, même si c'est encore une fois pas ça qui fait la valeur des gens. Mais dans le droit, on attend tout de même des diplômes, clairement,
oui,
des diplômes. Donc là, il fallait aller jusqu'au bac plus 5 et vous en avez eu quelques-uns, je crois.
Ça, je crois que c'est ça aussi, il faut obtenir des diplômes pour être cru, en fait, pour être valorisé. Alors qu'effectivement, heureusement qu'il y a eu la VAE pour valoriser des expériences de 10 ans, 15 ans dans un domaine, ce qui a été mon cas, pour entrer en licence à la Sorbonne. J'ai fait une valorisation d'acquis qui a été acceptée. J'ai fait un oral à Paris pour être légitime pour rentrer.
Oui.
Donc, c'était des cours le samedi matin en présentiel. Donc, j'avais des cours, comme tout le monde, avec des profs de la Sorbonne qui ne sont pas les plus simples.
Je veux bien vous croire, des êtres complexes et très intéressants, bien sûr. Mais
Et j'ai eu plaisir à retrouver quand même un professeur que j'avais eu en faculté qui s'appelle, tout le monde le saura sur Montpellier, s'appelle Dominique Rousseau, qui est maintenant qui est spécialisé en droit constitutionnel, que j'ai eu très très heureuse de l'approcher, en tout cas dans les années fin 98, 99, et maintenant il est parti aussi. Voilà. Quand je partais de sortir de la Sorbonne, lui, il est rentré en tant que professeur, et je suis. Des fois, je l'écoute aussi quand il est sur les radios et même à la télé sur certaines chaînes. Et voilà, comme quoi, on se rencontre un jour ou l'autre.
Et oui, c'est ça. Il y a des. Voilà, je ne sais pas si c'est une question de destin, de synchronicité, mais.
Voilà. Et on pouvait, j'ai pu, et je l'ai fait.
Et oui, alors.
Donc,
oui, tu peux. Hein, c'est le petit parallèle avec. Le nom de l'une de vos deux sociétés, si je puis dire. Mais alors, Véronique, selon vous, quelles sont aujourd'hui les principales difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap face aux droits ou aux démarches administratives ? Est-ce qu'on peut dire qu'il existe encore un déficit d'information ou d'accompagnement dans ce domaine, alors qu'on pourrait penser quand même que ce sont des publics un petit peu fragilisés, sans les victimiser, attention, et sans... il y a une idée aussi de responsabilisation, mais bon, tout de même. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il y a un vrai déficit encore
informationnel ? Oui, en fait, il faut savoir en France qu'il y a plus de 3000 documents qui s'appellent les CERFA, il n'y en a que 800 qui sont utilisés dans le dossier MDPH. Ce dossier MDPH est en deux, un côté administratif, un côté médical. Même le côté administratif est très, des fois, compliqué à remplir, surtout ce qu'on appelle le parcours de vie. On demande à la personne de remplir cet encadré. Et c'est sur ça que j'aime les accompagner, parce que ils ont du refus, des fois c'est mal rempli par certains professionnels. Donc j'essaye de les accompagner sur ce biais-là. Mais ce dossier reste, d'ailleurs, qui est en cours de simplification. Je crois qu'il y a un ministère qui est en en train, sur trois villes, en tout cas trois départements, de mettre ce dossier MDPH, le nouvelle mouture, sur des sites pilotes, qui devrait être rendu 2027.
D'accord.
Pour tout le national.
D'accord, voilà. Donc cette volonté, oui, de simplification.
Donc, effectivement, sur le site, et j'ai créé un parcours numérique pour remplir ce dossier.
D'accord. Alors, si je puis me permettre, hein, Véronique Martinez, on va y revenir, en effet, dans la seconde partie de l'émission. On va revenir donc plus spécifiquement, en effet, sur ces deux initiatives engagées que vous avez menées, dont vous êtes fondatrice. Hein. Oui, tu peux. Donc, une plateforme qui accompagne, en effet, les personnes dans leur démarche et leur projet. Et Andijuris, donc une structure qui met le droit au service de l'inclusion et de l'accessibilité. Et justement, on va faire une petite transition, une petite pause musicale, d'accord, avant de vous retrouver. Et vous avez choisi quelle musique, quelle chanson, s'il vous plaît?
Alors, j'ai la première.
Oui, Intouchable.
Intouchable.
C'est ça. Voilà, hein, si je fais une petite... mais je vous laisse dérouler la suite.
Oui, j'avais, bien sûr, comme beaucoup de millions de cinéphiles, j'ai beaucoup apprécié ce film qui mettait à l'honneur, on va dire, une personne qui était en fauteuil. Roulant.
Oui, Omar Sy.
Omar Sy et je crois que c'était François Cluzet, je crois.
Exactement.
Oui. Voilà, de tête. Et donc, j'ai choisi effectivement la BO de Earth, Wind and Fire. Je ne sais pas si je prononce bien. Et Boogie Wonderland.
Ok, voilà. Super. Ben, on écoute. À tout de suite, Véronique Martinez.
À de suite.
Ravie de retrouver dans cette seconde partie de cette matinale, ce 10-10, Véronique Martinez, fondatrice donc de Oui, tu peux, et Andy Juriste. Donc on va faire en effet un focus particulier sur ces deux structures, deux dispositifs, si je puis dire. Donc déjà, la plateforme Oui, tu peux, Véronique Martinez, vous êtes fondatrice de cette plateforme, on l'a dit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette initiative et, bon, on a un petit peu spoilé, mais à qui s'adresse précisément cette plateforme ? Aux personnes handicapées, vous diriez ? Ou en situation
pas que,
de handicap ?
D'accord. Pas que ces personnes en situation d'handicap, en autonomie ou semi-autonomie, les seniors et surtout les aidants familiaux.
D'accord.
Parce que les aidants familiaux ont de vraies détresses administratives, puisque quand on est, par exemple, conjoint ou compagnon d'une personne qui, d'un coup, se trouve en situation d'handicap, on est démuni. Parce qu'au début, on n'a pas fait du droit, on ne sait pas comment faire, donc on va se diriger à droite, à gauche, mais des fois, on est perdu. Voilà, c'est comme une carte Maps, et on ne sait pas vers quel chemin on doit se diriger. Donc, j'ai créé Oui, tu peux, effectivement, où j'ai mis d'abord... des lettres gratuites à disposition. Donc ça, c'est pas mon expérience professionnelle. J'ai créé donc, on en est à 500, peut-être plus, j'ai créé donc 500 modèles de lettres stéréotypées où la personne n'a qu'à rentrer son profil et la lettre se remplit automatiquement en fonction de son handicap et de ses besoins.
Et, voilà. Et comment vous avez fait pour écrire ces 500 lettres ? Vous l'avez fait à la mano, comme on dit ?
D'abord, c'est des années.
Oui, et oui,
des années de cumul de personnes que j'ai accompagnées dans divers domaines, que ça soit la banque, les impôts, les amendes aussi, voilà, pour les personnes qui conduisent des fois des véhicules. Ça peut être aussi les problèmes entre voisins, la banque, la mutuelle, les assurances. Donc, il y a, je crois que j'ai mis entre 15 et 20 domaines de la vie quotidienne. Et dans chaque domaine, il y a environ entre 20 et 40 lettres qui sont adaptés à ces thèmes-là. Voilà, donc la personne, elle se connecte, elle va voir ses lettres, elle imprime ce qui est fait pour elle. Et après, il y a j'ai fait aussi tout ce qui est un peu recours, les recours contentieux, les rapports, etc. Tout ce qu'on connaît un peu de la vie quotidienne, que j'ai réalisé pour les personnes, alors toujours, je le dis de manière bénévole. Et après, il y a bel abonnement, voilà.
Oui.
Voilà, qui est vraiment très adapté à une personne qui n'a pas beaucoup de revenus, parce qu'il faut se dire que ces publics n'ont pas beaucoup de revenus non plus, surtout, voilà. Voilà
c'est... Oui, donc il y a des ressources, on va dire, gratuites qui sont toujours disponibles tout de même, mais alors, en effet, si on veut un accompagnement plus spécifique, ce qui est normal, plus poussé, eh bien, en effet, c'est, voilà, on paye une petite somme, mais bon, cette structure est inspirée, enfin, plus qu'inspirée, je crois, elle s'inscrit pleinement dans l'ESS.
C'est ça.
Alors, quel est le coût, entre guillemets, si on veut s'abonner ?
Alors, l'abonnement, il est à 9,90
euros. Par mois ?
Par mois.
Par mois ? D'accord.
Voilà.
D'accord,
oui, ça en fait ensuite, ensuite, il peut y avoir des tarifs dégressifs en fonction avec les associations avec lesquelles je peux travailler.
Oui.
Peut-être même des CCAS, etc. Enfin, moi, je suis ouverte à tout partenariat.
Oui.
C'est vraiment ESS pourquoi ? D'abord parce que la moitié des ressources que j'aurai vont être réintroduites, réinjectées dans la société. Et puis, ça rentre pleinement dans ma mission, dans les objets sociaux de cette société, de cette SASU que j'ai créée. Et que, voilà, pour moi, ça semblait naturel que ça s'inscrive dans l'ESS. Je ne pouvais pas faire autrement que comme ça.
Et justement, selon vous, quel rôle peut jouer l'économie sociale et solidaire, donc l'ESS, dans l'inclusion des personnes en situation de handicap ? Vraiment, vous pensez qu'il y a parce que c'est des fois c'est un petit peu abstrait cette notion, même si on voit bien que, enfin, clairement vous vous réinjectez. D'ailleurs, c'est partie des conditions sine qua non finalement pour être assimilé à ce concept, mais qui est plus qu'un concept. Voilà, dans la réalité, on voit bien comment ça peut se dérouler au travers de votre exemple, Mais tout de même, vous réinjectez donc systématiquement, c'est ça, une grande partie des bénéfices, vous l'avez dit, pour donc au service du développement de la société.
C'est ça.
Je crois que vous-même vous employez des personnes qui sont alors peut-être pas en situation de handicap, mais un public fragilisé.
Oui.
Ça n'enlève rien à leurs compétences d'ailleurs. Hein, voilà.
En fait, j'ai fait bon, ça correspond aussi à mon savoir-être.
Oui.
J'ai souhaité donc créer donc l'équipe qui est 4 personnes, donc il y a Anne-Laure qui me suit en parallèle sur des dossiers quand moi-même je suis ici, Et ensuite, j'ai donc pris deux stagiaires rémunérés. Un stage rémunéré qui, effectivement, sont en reconversion professionnelle. Oui. Voilà, qui a une vraie insertion aussi dans le monde professionnel pour eux. Mm-hmm. Voilà, donc il y en a... Les deux sont en master.
Oui.
Voilà,
oui.
Il y en a un qui est plutôt dans la région de Millau.
Oui.
Voilà, enfin Millau. Et puis un qui est sur Montpellier, qui m'accompagne tout ce qui est réseaux sociaux et le développement de la plateforme. Mm-hmm. Bon, je précise, ce n'est pas un site internet, c'est une plateforme puisqu'il D'accord. faut s'inscrire
oui.
et c'est gratuit. Voilà, D'accord. mais je prône... voilà, et si effectivement j'obtiens les finances que je souhaite, ben effectivement, je transformerai ces stages en alternance, mm-hmm. ce qui est normal.
Et oui, oui est, ça va dans la logique,
c'est
dans
votre
paradigme.
Hein. Hein.
Et oui. Alors justement, vous parliez de finances. Bon, outre le fait que l'on puisse en effet adhérer à cette plateforme aussi en payant, mais une somme qui est, je dirais, très peu élevée. Mmh. Voilà, hein, même si on est en effet, on fait partie d'un public fragilisé économiquement, c'est vraiment 9,90 €. Bon, c'est voilà, d'autant plus tout ce que l'on peut obtenir hein, comme ressources au travers donc de cette plateforme.
Surtout que il faut savoir avant que la personne s'inscrive, s'abonne, etc. Je lui offre la possibilité d'avoir un quart d'heure de rendez-vous avec moi.
D'accord.
Donc, pour voir si ça peut correspondre à ses besoins.
Oui.
Donc, voilà, je n'incite pas, je oui. regarde la situation et si vraiment ça peut correspondre.
Mmh. Donc, voilà. un quart d'heure,
donc,
en
je
effet,
demande,
de rendez-vous.
Voilà, oui. je vais chercher sa problématique tous oui. les jours. Donc, bien sûr, ça tourne toujours à ce dossier MDPH sur le taux d'invalidité.
Oui.
Des licenciements des fois qui sont
abusifs
un peu abusifs d'accord. parce que voilà mais ça tourne toujours les voilà
il y a des thématiques
autour de ces thèmes oui.
des thématiques récurrentes alors justement Véronique donc outre ces ressources je dirais documentaires ces lettres hein, que l'on retrouve sur la plateforme a fortiori si l'on s'abonne où là on a accès voilà ouais. un panel plus vaste encore. Est-ce qu'il y a aussi deux types d'accompagnement que vous proposez? Vous parliez en effet de ce quart d'heure que vous proposez aux personnes qui vont s'abonner ou là en présentiel ou par téléphone, je ne sais pas, ou en visio, vraiment vous avez un échange direct. Est-ce qu'il y a des accompagnements de ce type aussi que vous proposer ou que peut-être vous êtes susceptible de
Alors,
proposer par la suite.
En fait, j'ai créé oui, tu peux, c'est plutôt l'apport numérique, ça la personne fait quand même depuis chez elle.
Oui.
Si effectivement elle se heurte à des soucis de compréhension, oui, elle peut me contacter. Voilà, où elle contactera peut-être l'avocat avec les avocats avec lesquels je vais être en partenaire avec eux, forcément. Hein.
Mm-hmm.
Et alors qu'en juriste, je les ai accompagnés de A à Z.
D'accord, alors voilà. Justement, transition très intéressante. Andijuris. Alors, Andijuris, c'est un petit peu le complément, quelque part, de la plateforme, donc qui est plutôt, peut-être pas 100% digital, mais qui est quand même, qui a vocation à être digitalisé en très très grande partie. Voilà, hein, oui tu peux, encore une fois. Donc, Andijuris, quelle est la mission principale de cette structure et en quoi est-elle complémentaire à oui tu
Alors,
peux
Alors, Andijuris, d'abord, c'est un centre de formation, hein. Donc, j'ai commencé par Datadoc, Calliope, par la suite. C'est un centre de formation en RH et en droit du travail. Donc, en fait, je forme. J'ai eu le diplôme de formatrice pour pouvoir former ce public, on va dire, en situation de handicap, être inséré dans les services RH des structures. Voilà. Parce que là aussi, il y a un petit peu de travail à changer les mentalités.
Mmh.
Voilà pourquoi une personne handicapée serait moins bien qu'une personne valide.
Oui.
Donc, je les forme à obtenir un titre pro d'assistant ressources humaines. Voilà.
D'accord.
Et j'accompagne sur d'autres choses, sur des thèmes, c'est ben, comment on accueille déjà une personne en situation de handicap, comment ça s'accueille quand on a un handicap invisible, comme on dirait, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais ça se perçoit. Mmh. Voilà.
Vous avez des exemples handicap invisible, c'est vrai qu'on en parle pas mal, je trouve.
La personne malentendante, déjà.
Oui. Hein, oui.
Donc, il faut le savoir, c'est que je suis en train de suivre une formation de langue de signes.
Oh.
Ben oui, on ne peut pas être dans l'handicap si on ne se forme pas quand même à certains thèmes. En tout cas, j'ai une amie qui est formatrice en langue des signes. Elle, alors, c'est langue de signes française, il faut le savoir.
D'accord.
Et Voilà, donc dans un handicap invisible qui est celui-là, une personne aussi qui a une déficience mentale, on ne le voit pas au prime abord, c'est quand la personne peut-être va commencer à parler, ou le regard, d'accord, il fait beaucoup aussi, le regard, hein. Et oui, la posture physique aussi, il fait beaucoup. Et puis j'ai appris aussi au travers de mes expériences professionnelles, il y a des personnes qui n'aiment pas être touchées.
D'accord, ça fait partie.
Vous savez, on a l'habitude, nous, dans le Sud, de toucher la personne au niveau du bras.
On est très tactile dans le Sud. Sans tomber dans le cliché, mais c'est vrai.
Personne n'aime pas ça.
C'est une phobie, une forme de phobie à ce moment-là?
Non, ces personnes, elles sont... Voilà, donc on le sait.
Oui, d'accord.
Voilà, d'abord, on le sait parce qu'elles vont s'éloigner.
Oui.
Et puis c'est là, à ce moment-là, qu'on va leur poser des questions, si on va voir.
Voilà. D'accord. Alors vous parlez, oui, c'est vrai, de ça, je me permets du coup de rebondir. Est-ce qu'on peut parler de santé mentale? J'allais venir vraiment à cette thématique parce qu'on c'est l'année où c'est de la santé mentale ou l'année dernière, hein, je crois. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en exergue. Ça peut s'apparenter finalement à ça, ce type de... Alors je parle de phobie, mais je vulgarise à l'extrême. C'est-à-dire, voilà, des fois on des tocs, des je ne sais pas. Est-ce que ça aussi, c'est inclus, si je puis dire, dans vos accompagnements, le handicap sous toutes ses formes?
Bon, on a parlé beaucoup aussi dans les années de tout ce qui était le burn-out. Hein.
Oui.
Le burn-out, ça fait partie aussi de ces gens qui se font un petit peu harceler par leur hiérarchie, parce qu'il y a trop de travail. Il y a le burn-out aussi, c'est l'effet inverse.
Oui, oui.
Mais effectivement, je ne sais pas si ça a été catégorisé comme des problèmes de santé mentale, parce que vous savez, santé mentale, il y a des tableaux qui existent auprès des caisses primaires d'assurance maladie. Voilà. Maintenant, je pense qu'avec tout ce qu'on connaît dans la société, je pense qu'il faut vraiment y tenir compte. En tout cas, il faut prendre en compte la santé mentale, puisque c'est important pour avancer aussi dans notre vie.
Et oui.
Voilà, parce que de plus en plus, ça atteint des jeunes.
Et oui, en plus, oui.
Les jeunes. Pendant le Covid, ça a été des mauvais moments. Donc, effectivement, il faut savoir que quand j'avais des étudiants à former, je les ai formés en visio à ce moment-là, hein, puisqu'on était tous confinés. Et donc, j'ai dû faire le travail aussi bien de formatrice que coach.
Oui, et oui.
Donc, je les ai accompagnés en individuel. Je les ai accompagnés en individuel pour obtenir, et ils ont eu leur diplôme.
Oui.
Donc ça a été une fierté pour moi.
Oui.
C'est-à-dire que malgré tout, voilà, en plus de professeur, j'étais le bâton sur lequel ils pouvaient s'appuyer.
Oui, le bâton de pèlerin.
Et de dire non, il ne faut pas que tu... Oui, mais madame, je suis toute seule. Mais écoutez, vous allez me donner votre dossier, puisque quand on parle d'un dossier professionnel, et je vais vous aider pour les oraux, etc. Voilà. Non, c'était vraiment une bonne expérience, des deux côtés en tout cas.
Donc en effet, on le voit bien, Véronique Martinez, vous couvrez vraiment différents domaines du handicap. Je ne sais pas, du handicap au sens large. Vous êtes en tout cas dans l'inclusion, dans l'inclusivité. Clairement, que l'on parle de handicap donc physique, moteur, bon, c'est un petit peu redondant certainement, mental. Alors et aussi des fois des incidents de vie. Voilà, hein, de toute façon, on n'est pas stigmatisé. Vous parliez de burn-out ou de bore-out. Voilà, des fois ça peut être transitoire et ensuite on peut bien sûr aller de l'avant. Alors Véronique, parce que l'émission va toucher à sa fin, si une personne souhaite bénéficier de vos services ou simplement obtenir des informations, comment peut-elle vous contacter, que ce soit pour Oui tu peux ou Andy Jury?
Alors les deux, il y a ce site internet, il y a quand même mon adresse mail, hein. Donc c'est contact@andijuris.fr.
D'accord, il y a un site, hein, Andijuris.
Il y a un site, hein, et sinon il y a contact@ouitupeux.fr aussi.
D'accord.
Voilà. C'est comme le oui. Hein.
Oui, c'est ça. Hein. Bon, on l'avait
OTP,
un petit peu évoqué en début d'émission, mais,
voilà.
Mais oui, tu peux. Et d'ailleurs, oui-tu-peux.fr, voilà, c'est le
.fr,
URL.
Oui.
Ok, très bien, parce que des fois, voilà, et on tape ça dans la barre de recherche, sinon c'est automatique, on accède comme ça à vos sites. Très bien, merci encore, hein, Véronique Martinez, d'avoir répondu présente à notre invitation. On écoute un dernier morceau, vous avez choisi. Quel est-il, s'il vous plaît, brièvement?
Alors, c'est Enya.
D'accord.
Parce que j'aime beaucoup, ça me passe un peu voilà, des bons moments aussi.
Oui.
Only time.
Très bien. Eh bien,
merci de m'avoir reçu.
Merci Véronique Martinez.
Et
au plaisir. Merci beaucoup.
À très bientôt. Merci.